Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime, une émission spéciale en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France, préparée comme tous les jours bien sûr par Perrine Suquet et par Laure Broulard, et c'est Alexandre Cagzan qui est aux manettes techniques de notre émission que nous avons intitulée, nous, Robert Durst, le milliardaire assassin, la double vie de l'extravagant milliardaire Robert Durst, c'est le titre que vous avez choisi, Timothée Boutry. Bonjour.
Bonjour.
Dans Le Parisien, puisque pour ce partenariat mensuel entre RTL et Le Parisien aujourd'hui en France, on a choisi toutes nos équipes d'en dire plus à ceux qui nous lisent et à ceux qui nous écoutent sur cette histoire absolument extraordinaire. Avant de vous laisser parler, je voudrais qu'on entende la pièce à conviction, finalement, ou une des pièces à conviction, parce qu'on va découvrir avec vous qui avez enquêté sur le sujet qu'il y en a peut-être d'autres, des pièces à conviction. La première, c'est une pièce à conviction sonore. C'est le rêve, il faut bien le dire, de toute émission de télévision qui travaille sur les affaires non élucidées. Il y a un long interview de cet homme, Robert Durst, et à un moment, il demande à aller aux toilettes. Il va aux toilettes, mais le micro n'est pas coupé. Alors, tendez bien l'oreille, même si vous parlez bien l'anglais, c'est très difficile à comprendre, mais on va traduire tout de suite. Écoutez.
There it is, your coin.
Voilà, et voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai tous tués, bien sûr. Alors cette bande, Timothée Boutry, elle a été passée, repassée en boucle par l'équipe du magazine pour être bien sûr qu'ils entendaient bien ce qui a été dit, quoi.
Oui, c'est bien ça. En fait, là, c'était après une interview qui avait duré assez longtemps, et l'interview se terminait, et à la fin, bon bah, un besoin naturel, et voilà, sans doute peut-être qu'il avait été un peu pressurisé pendant cette interview, et qui s'est un peu lâché comme ça, sans savoir qu'on allait l'entendre. Et... Alors, ce qui est curieux, alors, l'histoire a rebondi, là, vous l'avez dit, Jacques, dans votre présentation au mi-mars, le 14 mars, quand on a appris ça, et l'arrestation concomitante de Robert Durst. Mais en fait, ça a été enregistré il y a plusieurs années, il y a 2-3 ans, 3 ans, je crois, en effet. Ouais. Et c'est qu'en réécoutant les bandes, en préparant l'émission, que l'équipe s'est rendu compte qu'il y avait ça. C'était un peu ce joyau caché, en fait.
Voilà, en faisant le montage de l'émission et l'équipe de journalistes. Mais on y reviendra tout à l'heure très longuement avec Rémi Sulmont, notre correspondant aux États-Unis qui sera en ligne avec nous dans une vingtaine de minutes. En fait, l'équipe de HBO, donc cette télévision qui ressemble beaucoup à Canal+, on va dire, hein, pour aller vite, ils ont prévenu évidemment les enquêteurs. Il y a dans ce document qui a été diffusé, qui s'intitulait « La vie et les morts de Robert Durst », il y a évidemment une enquête complète sur les 3 affaires criminelles qui pèsent sur cet homme. Avant d'entrer dans le détail des affaires criminelles, je voudrais profiter de votre présence, Timothée Boutry, pour présenter en quelques mots la personnalité de cet homme. C'est un milliardaire fantasque, hein, on peut le dire, mais richissime.
Ah oui, richissime. C'est l'héritier d'une des plus grandes fortunes immobilières des États-Unis. Son père a... bâti ou Manhattan, non, on va pas exagérer, mais a construit de nombreux gratte-ciels de Manhattan.
Ouais, donc ils ont une bonne dizaine des plus beaux gratte-ciels de Manhattan.
Je crois que sa fortune est évaluée à plus de 4 milliards de dollars. Enfin, c'est considérable, voilà. Vraiment considérable. Et son frère, avec lequel les rapports sont compliqués, est l'héritier de l'Empire. Mais lui, il est à la tête d'une fortune colossale.
Voilà, c'est son frère cadet, mais ça, quand on viendra aux histoires d'héritage dans la famille, vraisemblablement, le père a préféré que ce soit le fils cadet qui gère ses affaires, peut-être à cause justement de faille dans le comportement, en tout cas psychologique, de Robert Durst. Alors évidemment, tout le monde l'appelle Bob. Il va se marier au début des années 80 avec une jeune femme qui s'appelle Kathleen, mais que tout le monde appelle Cathy, qui a fait des études de médecine. Et en fait, c'est un couple de la jet-set new-yorkaise, quoi.
Oui, c'est un couple en vue, connu, reconnu, admiré, enfin en tout cas suivi, on va dire. Lui, héritier d'une grande fortune, elle, joli. Alors lui, il avait des amitiés artistiques. On parle de John Lennon.
Oui, mais John Lennon, peut-être à cause de l'immeuble dans lequel habitait John Lennon, hein, vraisemblablement, ouais.
Et donc voilà, ouais. Je sais pas à l'époque, mais il y avait pas de paparazzi, mais disons que c'est sans doute un couple qui pouvait intéresser les gazettes, quoi. Parce voilà. que voilà, connu, ouais. Avec de l'entregent, elle était jolie, donc effectivement, on suivait ce qui se passait chez eux, quoi.
Et ils avaient donc apparemment tout pour être heureux, sauf que il y avait un problème dans le couple.
Bah, le problème, c'est aujourd'hui, on peut encore plus le dire, c'est sans doute lui, effectivement, qui n'est pas très stable et qui était aussi violent, en fait.
Voilà, quelqu'un qui pouvait avoir des crises de colère.
Des crises de rage, oui. Et sa femme, d'ailleurs, s'en était ouverte à certains proches. On retrouve ça dans d'autres histoires, des fois, en disant, s'il m'arrive quelque chose, ce sera de la faute d'eux. Mais là, c'était un peu ce scénario-là qui s'était produit.
Sa femme, Cathy, avait décidé d'entamer une procédure de divorce à cause des violences exercées contre elle. Hein. C'est ça, le nœud de leur problème. Quoi.
Exactement. Ils allaient se séparer. Et voilà, lui n'était pas très stable et pouvait être très violent.
Et puis alors, en 2002, il va téléphoner le 30 novembre, non pardon, en 1982, excusez-moi, Bob appelle Cathy pour lui demander de venir le rejoindre dans leur maison de South Salem, c'est dans le ce qu'on appelle Westchester County. Elle vient. Et 5 jours plus tard, il va signaler à la police la disparition de sa femme.
Qui est toujours, aujourd'hui, officiellement disparue.
Et il dit, mais je l'ai reconduite au train, elle est partie pour New York. D'ailleurs, je l'ai appelée parce que le lendemain, en promenant mon chien, je me suis arrêté à côté de la maison dans une cabine publique, je voulais vérifier qu'elle était bien là. Le problème, c'est que la police, quand même, qui va faire un début d'enquête, mais on peut revenir ensemble sur cette enquête qui porte pas complètement son nom, qui mérite pas, en tout cas, complètement son nom. Les policiers découvrent quand même que la première cabine public, elle est à plusieurs kilomètres de chez lui et que le jour en question, il y a une tempête de neige.
Et que les témoignages qui affirmaient l'avoir vu sont plus si certains que ça. Donc
Alors, ouais. C'est vrai qu'il avait des huskies et des chiens de traîneau, parce que son frère Douglas, dont vous parlez dans votre article, a même dit, je crois, au New York Times, que, curieusement, les 6 chiens huskies de son frère, qui s'appelaient tous...
Igor. Tous le même nom.
avaient été morts mystérieusement la même année, avant la disparition de sa femme.
Et lui, rétrospectivement, il dit, je crois qu'il s'entraînait pour tuer sa femme.
On voit que c'est ce qui pèse sur les épaules de Robert Durst, c'est quand même quelque chose de considérable. Alors cela dit, il paye une caution, quoi, mais évidemment il est richissime et personne l'ennuie, quoi, sur cette histoire.
À l'époque, il n'est pas officiellement inquiété. Les proches de son épouse disent non, mais ça doit être lui, ça doit être Robert, il est responsable. Il y a une enquête qui est manifestement pas poussée. Alors pour les proches de son épouse, il y a peut-être eu des interférences, on va dire, peut-être que son argent a servi, mais en tout cas l'enquête a pas été très poussée. Et c'est vrai que dans le cadre d'une disparition, là comme dans tout cas de disparition dans un couple qui se sépare, souvent le conjoint est pas suspect par nature, mais enfin disons qu'on s'intéresse à lui. Et là, les investigations n'ont pas été vraiment poussées contre lui, en tout cas.
Voilà, il va vivre une vie tranquille de milliardaire pendant 18 ans, jusqu'aux approches de l'an 2000. Et c'est là que va avoir lieu un meurtre, c'est cette fois-ci avéré. Ça n'est pas une personne qui disparaît, c'est une femme qu'on retrouve dans son appartement avec une balle dans la tête le soir de Noël, le 24 décembre 2000. Et on vous raconte avec Timothée Boutry les tenants et les aboutissants de cette deuxième affaire.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et à la une de cette émission spéciale en partenariat avec Parisien aujourd'hui en France, Timothée Boutry, signé dans l'édition de ce matin, donc une page complète sur ce fait divers extraordinaire dont on parle énormément aux États-Unis, bien sûr, et maintenant on va en parler un peu partout dans le monde parce que l'histoire est incroyable. On pourrait penser qu'elle a été inventée par justement des gens qui écrivent par ailleurs, je sais pas, les experts ou d'autres émissions. émission de télévision. Mais là, tout est vrai. Et c'est donc au cours d'une émission consacrée aux affaires non élucidées, diffusée sur la chaîne HBO, que le soir de la, le jour de la diffusion de cette émission, le samedi 14 mars dernier, toute l'Amérique a pu entendre ce que le document qu'on a entendu au début de l'émission, je les ai tous tués. Il y avait autre chose aussi dans cette émission, mais on en parlera. Alors, il faut dire que ça a été un coup de tonnerre, un scoop énorme, parce que la veille de la diffusion de l'émission, Robert Durst a été arrêté alors qu'il était en liberté totale depuis toutes ces années. On reviendra sur cet aspect précis de l'affaire. Mais d'abord, on continue à parler de cette vie incroyable. Donc, on a dit la disparition de sa femme en 82, une enquête finalement qui ne le met pas vraiment en cause. En gros, quoi, les policiers acceptent sa version des faits. Ben oui, je l'ai reconduite, elle est venue, mais je l'ai reconduite à la gare, elle est rentrée à Manhattan. J'ai appelé d'ailleurs, bon, je ne l'ai pas eu, j'étais inquiet. Ben, effectivement, 4 jours après ou 5 jours après, j'ai appelé la police. Et puis, qu'est-ce qui se passe, Timothée Boutry, à l'approche dans cette année 2000?
On est le soir de Noël, le 24 décembre, et on retrouve le corps d'une femme qui s'appelle Suzanne Berman, une balle dans la tête, dans son appartement de Los Angeles. Alors, des morts violentes aux États-Unis, il y en a, mais Suzanne Berman n'est pas n'importe qui. C'était une très bonne amie du couple et vraiment la confidente de Robert Durst. C'était vraiment quelqu'un qu'il avait confiance, à qui, envers laquelle il avait l'habitude de s'épancher.
À l'époque de leur couple, où leur couple allait bien, elle était amie avec Cathy, mais elle était très très amie effectivement avec Durst.
Ouais, c'est vrai. C'était vraiment un peu sa meilleure amie. Depuis toutes ces années, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'était vraiment une très très proche de Robert Durst.
Ouais.
Alors, elle disparaît. Là encore, Robert Durst n'est pas vraiment inquiété. On ne pense pas vraiment sur son cas.
Ouais.
Alors, rétrospectivement, évidemment, c'est un peu curieux. Surtout qu'il semble qu'elle lui réclamait de l'argent et que, en fait, l'année précédente, l'enquête sur le meurtre de son épouse, de Cathy, avait été réouverte. Parce qu'il y a eu un témoignage d'un délinquant qui dit « Oui, il y a du nouveau, je sais qui a tué. » Enfin, toujours est-il que la justice américaine avait profité de cet élément-là, de
pour ce fait nouveau, pour réouvrir l'enquête.
Ouais. Et il semble que Suzanne Berman était sur le point d'être entendue dans le cadre de l'enquête sur la disparition de l'épouse de Robert Durst.
Voilà, peut-être aurait-elle pu parler de conversation avec Cathy, qui lui aurait dit « S'il m'arrive quelque chose... »
Voire de conversation avec Robert, parce que certains même se demandent si elle n'a pas pu être complice. Bon, voilà, on ne va pas extrapoler, mais disons que son témoignage, à bien des égards, pouvait être très intéressant pour la justice américaine.
Alors, il y a un autre élément, mais sur lequel on reviendra beaucoup plus longuement tout à l'heure ensemble, c'est que comment la police a découvert le cadavre de cette malheureuse Suzanne? C'est parce qu'elle a reçu une lettre anonyme qui lui disait « Allez donc chez Madame Suzanne Berman, vous trouverez un cadavre ». Et le cadavre, en fait, c'était la propriétaire des lieux. Alors, je referme la parenthèse, on file aux États-Unis. Dans une dizaine de minutes, on aura Rémi Sulmont, le correspondant d'RTL. Mais tout de suite, à New York, je pense, nous retrouvons Fabrice Rousselot. Bonjour Fabrice Rousselot.
Bonjour, comment allez-vous?
Alors, très bien, vous êtes journaliste indépendant, vous avez longtemps été aussi le correspondant à New York du journal Libération, et vous avez, fait une enquête, et c'est pour ça qu'on voulait vous entendre maintenant, c'est une enquête sur la troisième affaire qui pèse sur la vie et le destin de cet homme, Robert Durst. C'est un crime, et c'est un crime qu'il a avoué. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé et comment il a été mis en cause, mais pas condamné? Vous allez nous dire pourquoi dans un instant.
Oui, bien sûr. Écoutez, c'est vraiment une affaire extraordinaire, comme est en fait toute l'histoire de Robert Durst. Et c'est une affaire que moi, j'ai découvert fin 2001, début 2002, quand l'histoire a commencé à faire du bruit. Et il faut se rappeler que cette affaire, en fait, est intervenue en septembre 2001. Donc, il est vrai qu'à l'époque, elle n'a pas eu le retentissement non plus qu'elle aurait pu avoir.
C'était après le 11 septembre.
Voilà, c'était juste après le 11 septembre. Et qu'il a fallu plusieurs semaines semaines pour que cette affaire prenne le retentissement qu'elle a aujourd'hui et qu'elle a eu après dans les mois suivants. Tout simplement aussi parce que Robert Durst, eh bien au début on ne savait pas que c'était lui. Donc ce qui s'est passé en ce jour, c'est le 28 septembre 2001, c'est tout simplement au Texas, hein, dans la baie de Galveston, il y a un gamin qui est allé pêcher avec son père et qui a repéré un sac plastique sur les bords de la rive. Et donc son père est allé voir et il y avait un torse qui avait été découpé dans ce sac plastique. Donc évidemment affolement général, la police est appelée, on regarde un peu, on trouve deux autres sacs plastiques avec des membres dans les sacs plastiques. La tête, on ne trouve pas la tête.
On envoie des plongeurs qui vont trouver les deux autres sacs qui avaient été lestés.
Ils sont au fond, etc. Ouais. On remonte tout ça et alors évidemment c'est la stupeur totale. Mais il y a un élément dans un de ces sacs plastiques, c'est qu'il y a un journal avec un petit autocollant d'abonnement avec une adresse. Et donc les policiers évidemment se rendent sur place à cette adresse et découvrent l'appartement de Maurice Black, donc la victime, et au-dessus se trouve un appartement où il trouve des traces de sang, et il y a visiblement, il s'y est passé quelque chose, et donc il commence à se renseigner pour savoir à qui appartient cet appartement, et apparemment l'appartement a été loué depuis quelques mois par une femme qui s'appelle Dorothy Steiner, et qui est apparemment est muette, ne parle pas beaucoup, on l'a vu se déplacer en ville plusieurs fois, elle est allée à la bibliothèque, elle est allée au restaurant local, vous savez, les fameux diners américains, les petits restaurants locaux. Donc la police est de plus en plus interpellée, c'est pas ce qui se passe, va chercher un peu dans les poubelles tout autour, et c'est là que l'affaire va prendre une autre dimension, parce que en cherchant dans les poubelles, ils trouvent une ordonnance qui a été faite au nom de Robert Durst par un opticien. Et alors là, c'est là que ça commence évidemment à poser quelques questions. Et on va se rendre compte au bout de quelques jours que cette femme en fait n'est autre que Robert Durst lui-même, qui a loué cet appartement donc dans les fins fonds du Texas. Je ne sais pas si vous connaissez Galveston.
Non, pas du tout.
En fait, je n'irai pas vraiment en vacances. Même quand on va dans la baie, il y a du pétrole en fait dans l'eau.
D'accord, donc, c'est un bout du monde. Pas très poétique.
Voilà, c'est pas très poétique. Et en tout cas, Durst a loué cet appartement sous cette fausse identité. Et il dira plus tard qu'en fait, il voulait justement échapper un peu à la police, ou faire en sorte que la police qui, donc depuis 2000, avait rouvert l'enquête de Suzanne Berman, ne vienne pas le chercher.
Alors, je vous interromps Fabrice Rousselot, parce que bon, on comprend bien le contexte de cette autre affaire, qui est la troisième et dernière affaire. On va faire une pause et puis on vous reprend tout de suite après pour la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire, elle est pleine de rebondissements qu'on va vous raconter tous ensemble. À tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et vous découvrez avec nous à la radio cet après-midi sur RTL, et peut-être vous avez découvert ce matin dans les pages du Parisien aujourd'hui en France, l'histoire de la double vie de l'extravagant milliardaire Robert Durst. C'est le titre que Timothée Boutry a donné à son article paru ce matin donc dans le Parisien aujourd'hui en France. On parle de tout ça avec lui bien sûr, et puis aux États-Unis avec Fabrice Rousselot qu'on va reprendre dans quelques secondes, qui lui a enquêté sur ce meurtre incroyable du voisin de Robert Durst, mais enfin d'un Robert Durst qui portait un autre nom et qui était costumé en femme soi-disant pour échapper à la fois à la pression des journalistes américains, mais surtout pour fuir peut-être les questions trop embarrassantes de la police sur la disparition mystérieuse de sa femme en 1982, puisque Timothée Boutry nous le disait, l'enquête avait été réouverte juste avant, curieusement d'ailleurs, que ne meurt exécuté d'une balle dans la tête l'ami intime du couple et la confidente de Robert Durst, Suzanne Berman. Et puis après, il y a eu en 2001, donc un an après, en septembre 2001, un peu après le 11 septembre, nous disait Fabrice Rousselot, cette autre histoire où des pêcheurs découvrent dans la baie de Galveston un tronc humain, puis on trouve le reste du corps dans des sacs qui ont été lestés. À l'intérieur, un journal. Sur ce journal, l'adresse de la victime. Et la porte en face, c'est celle de Robert Durst. Alors, on en était là tout à l'heure, Fabrice Rousselot. Qu'est-ce qu'il va avouer, ce crime ?
Oui, alors il va pas le qualifier comme crime, il va avouer avoir tué son voisin, et en fait on va avoir un peu l'explication entre guillemets de tout cela en 2002, puisqu'il va passer en procès en 2002, et donc la police qui avait donc repéré le nom de Robert Dürr sur une ordonnance d'un opticien va l'arrêter en allant chez cet opticien quelques jours après la mort de Maurice Black, la découverte de son corps. Mais Dürr va payer la caution. C'est-à-dire que c'est aux États-Unis, on vous inculpe, mais vous pouvez payer une caution. Ouais. Pour Et donc, il paye une caution, je crois que c'est 300 000 dollars, et il va de nouveau disparaître. Mais néanmoins, la police, et là, on est toujours dans le rocambolesque, hein, avec Robert Dürr, ça n'arrête jamais, va le retrouver en Pennsylvanie, avec des pistolets, il avait des revolvers sur lui, en train d'essayer de voler, je ne sais plus quoi, mais
un sandwich, je crois, ou quelque chose comme ça.
Un sandwich et une boisson, alors qu'il avait. Il avait près de 1000 dollars de liquide sur lui. Néanmoins, ils arrêtent Robert Dürr et qui va passer en procès. Ouais. Et ce procès, donc, qui se tiendra au Texas en 2002, est quelque chose d'assez fabuleux, puisque Robert Dürr va à la fois démontrer une personnalité visiblement contrariée, très troublée. Ouais. Il va expliquer aussi qu'il fume beaucoup de marijuana, qu'il est accro à la marijuana et à l'alcool, qu'il souvent il se parle à lui-même, en fait, etc. Ouais. Et il explique
c'est ce qu'il a fait pendant l'émission de télévision, il se parle à lui-même effectivement.
Voilà. Vous savez, il avait dit un jour, j'ai commencé à me parler tout seul quand j'étais à l'université et même au lycée, et en fait j'ai eu des ennuis parce que les gens pensaient que je me moquais d'eux, et je me suis fait frapper plusieurs fois parce que les joueurs de sport, de foot américain pensaient que je me moquais d'eux alors que je me parlais à moi-même.
Ouais. Alors il y a une chose, donc Fabrice Rousselot, c'est que au cours de ce procès, il va plaider la légitime défense avec son avocat. Comment il raconte ce qu'il s'est passé? Quelle est sa version des choses?
Il dit tout simplement, il dit voilà, moi je suis arrivé un jour chez moi, donc en septembre 2001, et il y avait Maurice Black qui était chez moi, et qui avait l'air très en colère, qui avait l'air mécontent, etc. Il explique que son voisin a toujours été irascible, qu'il se plaignait de tout, etc. etc. Mmh. Et donc, le fameux Maurice Black était chez lui, et selon Robert Dürr, avait dans sa main un revolver que Dürr lui avait caché dans son four. Mmh. Il dit voilà, vous vous rendez compte, il était en train de me menacer, etc. Et il dit écoutez, il y a eu une échauffourée, on s'est battu entre guillemets, et puis le coup est parti et Maurice Black est mort. Et alors là, donc les jurés, en tout cas tout le monde écoute sa version. Évidemment, le procureur n'y croit pas, tout ça. Et alors, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que derrière, on lui dit mais écoutez, donc vous dites qu'il y a eu une échauffourée.
Mais pourquoi vous l'avez découpé en morceaux,
voilà, pourquoi
l'avez
découpé? Et alors là, Dürr et les images de ce procès, parce qu'il y avait eu des images, sont assez extraordinaires. On le voit qui reste silencieux pendant peut-être, 15-20 secondes, et puis qui dit écoutez, j'ai longtemps réfléchi, je me suis dit que de toute façon, c'était la meilleure solution, donc je suis allé chez lui, je savais qu'il avait une hache et puis des couteaux, etc., et je l'ai découpé, je savais pas quoi faire, j'étais paniqué, et j'ai tout mis dans la baie de Galveston.
Oui, parce qu'il pensait, dit-il, en fait, que avec l'affaire de la disparition mystérieuse de sa femme, avec l'affaire de l'assassinat de Suzanne Berman, personne ne croirait à son scénario, à son histoire, quoi, en fait.
Exactement. Il disait, oui, vous comprenez bien, moi, je savais, j'avais tous ces antécédents-là, on allait évidemment me soupçonner, etc., etc. Ouais. Donc, je me suis dit, c'est la meilleure solution. Ouais. Et ce procès, alors, il y a eu des délibérations, évidemment, des jurés, comme dans tous les procès.
Mais des jours et des jours de délibération.
Et ça a duré des jours et des jours, et au final, ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Il y a eu, après, la presse a essayé de parler à certains des jurés, et certains des jurés ont dit que, écoutez, ils trouvaient son histoire plausible, donc voilà, qu'ils avaient été aussi impressionnés par le monsieur, ce qui est aussi l'une des particularités de Robert Dürr, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez vu vous-même le documentaire de HBO, mais on découvre une personnalité à la fois troublée mais manipulatrice, un côté charismatique aussi, un côté comme ça très sûr de lui, qui vient évidemment de sa fortune et de son passé, et donc il a réussi à convaincre les jurés jurés, en tout cas suffisamment pour qu'il n'y ait pas d'unanimité pour le condamner. Mais... Et il est sorti libre de cette affaire.
Oui, parce que j'ai relu l'article que vous avez publié dans Libération à l'époque, et vous dites que quand il apprend le fait qu'il est l'acquittement, il a l'air aussi étonné que les journalistes...
Il est complètement étonné. Il est complètement étonné. Honnêtement, tout le monde est étonné à l'époque parce qu'on se dit quand même... c'est la troisième fois maintenant, il en réchappe une nouvelle fois. J'allais dire la seule chose positive entre guillemets, ou toi qui mènera peut-être à la vérité de tout cela, c'est que quand le film de 2010, hein, pas le documentaire, mais le film avec Ryan Gosling.
Ah, il y a eu un film de cinéma absolument sur sa vie.
En 2010, l'un des réalisateurs du film avait dit notamment que c'est cette partie-là qu'il l'avait fasciné, qu'il l'avait conduite à faire le film. Et comme vous le savez peut-être, c'est le film, c'est parce qu'il y a eu ce film en 2010 que Durst est allé voir HBO, est allé voir le réalisateur de ce film pour faire le documentaire. Donc quelque part, il y a peut-être en tout cas un élément, la folie de ce procès servira peut-être la justice au final, mais c'est vrai que à l'époque, personne n'y croyait, personne ne pensait que Robert Durst sortirait indemne de cette affaire, et pourtant c'est bien ce qui s'est passé.
Je vous remercie beaucoup, Fabrice Rousselot, d'avoir fait le point sur ce meurtre, donc admis, avoué, mais expliqué comme étant la conséquence d'une bagarre, comme vous l'avez expliqué, acquitté au nom de la légitime défense. Merci infiniment, Fabrice Rousselot. Et dans un tout petit instant, après une nouvelle pause, avec Timothée Boutry, on va vous dire maintenant qu'il y avait dans le reportage, dans le documentaire de HBO, en dehors de ce fameux moment où aux toilettes, avec son micro toujours branché, il dit « mais oui, je les ai tous tués », il y avait quand même autre chose qui pourrait être une pièce à conviction très, très accablante pour lui dans le meurtre de Suzanne Berman, dont il est officiellement inculpé à l'heure actuelle.
L'heure du crime sur RTL.
Une émission spéciale en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France qui consacre ce matin une page sous la signature de Timothée Boutry, qui est également mon invité, pour raconter tout ce qu'on est en train de vous dire depuis le début de cette émission, c'est-à-dire l'incroyable double vie ou triple vie de cet homme milliardaire, assassin, qui n'hésite pas à se costumer en vieille dame muette pour qu'on l'embête pas et qu'il soit pas obligé de raconter de trop de choses. Donc c'est plus simple comme ça. Il s'est dit bon, elle va être muette, voilà, et elle s'appelle Dina et elle assassine quand même son voisin. Bon, alors Timothée Boutry, maintenant on revient à ce documentaire de HBO. C'est un documentaire en 6 épisodes consacré, donc ils ont passé des heures et des heures, les journalistes, avec cet homme là qu'est-ce qu'il y a d'autre de très très important qui va certainement peser très lourd dans son inculpation actuelle pour la mort, redisons-le, en 2000, le 24 décembre 2000, de Suzanne Berman.
Parce qu'il faut souligner que les journalistes de HBO non seulement ont interviewé à plusieurs reprises Robert Durst, mais ils ont aussi enquêté.
Ils sont des journalistes d'investigation. C'est une émission d'investigation.
Ils ont cherché des témoins, des éléments. Enfin, ils ont vraiment fait. Ouais. Et d'ailleurs, même la justice reconnaît qu'ils ont fait le travail que la justice n'avait pas fait. Donc voilà, il faut reconnaître ça. Ouais. Et ils ont retrouvé notamment que lors de la disparition de Suzanne Berman, qui est donc la confidente de Robert Durst,
elle, on a bien retrouvé son corps.
Noël 2000. Los Angeles, la police avait été alertée par un courrier anonyme adressé à la police de Beverly Hills. Alors Beverly écrit B-E-V-E-R-L-E-Y.
Il a écrit Beverly Hills au lieu de Beverly.
Bon, à l'époque, voilà.
Ouais, banal.
Donc les journalistes du HBO ont retrouvé le fils adoptif de Suzanne Berman et qui leur a montré un document, une lettre envoyée par Robert Durst cette fois, précédant la mort de sa mère adoptive, signée également Beverly.
C'est-à-dire une enveloppe avec la même écriture, la même faute d'orthographe, adressée à Suzanne Berman, mais cette fois-ci, évidemment, sous la signature de Robert Durst.
Sous la signature de Robert Durst. Et là, effectivement, Robert Dodds, pendant, dans le documentaire, on le voit, il est confronté à ça, et là, il reste...
Ouais. Ouais, parce que là, les journalistes lui montrent les deux enveloppes en disant, alors, comment vous expliquez ça, quoi. Et en là, gros, il dit, bah, je l'explique pas, quoi.
Il est très embarrassé. Il est effectivement très embarrassé, et on peut penser que ça fait partie des éléments qui vont nourrir le dossier de l'accusation contre Robert Dodds pour la disparition, pour le meurtre, pardon, de Suzanne Berman, pour lequel il est, comme vous le disiez, effectivement inculpé aujourd'hui.
Alors, effectivement, et rappelons donc qu'il a été arrêté à la veille de la diffusion de l'émission, ce qui permet de se poser un certain nombre de questions, parce que est-ce que vous pensez qu'on peut soupçonner la police, mais je vais peut-être poser la question à Rémi Sulmont dans un instant, mais est-ce qu'on peut soupçonner comme ça la police et la justice américaine de faire coïncider l'arrestation de quelqu'un en sachant qu'on fait un coup de pub, mais alors énorme pour une émission de télévision. Les mauvaises langues l'ont dit.
On peut se poser la question, sachant que les journalistes ont rendu un fier service à la justice aussi. Donc voilà, officiellement, ils disent qu'il n'y a pas de lien, on avait nos propres éléments. N'empêche que le réalisateur a reconnu qu'il donnait des éléments à la police. Donc il n'a pas nié qu'il collaborait, je ne sais pas, mais en tout cas qu'il était en contact et qu'ils échangeaient des pièces. Donc bon.
On va demander l'avis de Rémi Sulmont, le correspondant d'RTL à New York, dans un petit instant, le temps de faire une dernière pause dans l'émission. Et puis nous filerons à nouveau à New York.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Émission spéciale en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France, consacrée donc à la personnalité hors norme de ce milliardaire fantasque et assassin américain Robert Durst. Et maintenant, on va vous donner les dernières nouvelles de Robert Durst, parce qu'on a dit qu'il avait été arrêté à la veille de la diffusion sur HBO de ce reportage, enfin ce documentaire qui avait ce scoop incroyable avec cet enregistrement découvert paraît-il par les journalistes de HBO au moment du montage de l'émission. Enfin, on va y revenir avec vous, Rémi Sulmont. Bonjour.
Bonjour Jacques, bonjour Timothée, bonjour à tous.
Alors oui, j'ai pas dit, en fait, depuis le début, il a 71 ans, Robert Durst. Est-ce que vous pouvez nous dire où il se trouve actuellement ?
Alors Robert Durst se trouve à la Nouvelle-Orléans en ce moment. Lui qui fuyait la justice depuis des décennies s'attendait en fait à une arrestation. Il avait confié à quelques proches. Plusieurs éléments indiquent qu'il préparait sa fuite au moment de cette interpellation. Il avait donc réservé sa chambre d'hôtel à la Nouvelle-Orléans en Louisiane sous un faux nom. Vous me direz, c'est pas la première fois qu'il faisait ça dans sa vie. Mais ça n'a pas empêché en tout cas la police de venir le cueillir à l'hôtel Marriott ce samedi 14 mars, 14 mars dernier, 24 heures donc. D'accord. Avant la diffusion du dernier épisode de la mini-série Jinx, qui veut dire qui porte la poisse en français, le fameux épisode où il semble passer aux aveux. Depuis, on a vu Robert Durst, 71 ans, la silhouette frêle apparaître en combinaison orange devant le tribunal pour son inculpation. On l'a vu aussi un grand sourire provoquant assis dans une voiture de police. C'est l'image qui tourne de lui en permanence ici sur les télés américaines. Alors, il a été inculpé, vous l'avez dit, par la police de Los Angeles, donc à l'autre bout du pays. Son transfert de Louisiane en Californie pourrait prendre du temps car la police locale veut d'abord le juger pour possession d'armes et usage de drogue, puisqu'il a été arrêté avec un Smith & Wesson et du cannabis.
Ah ben voilà, donc comme ça c'est la totale. D'ailleurs, cette photo dont vous parlez, où on voit un Robert Durst souriant à l'arrière d'une voiture de police, a été publiée dans l'article de Timothée Boutry, là dans Le Parisien. Et on peut se demander comme ça si dans sa tête il se demande pas s'il va encore s'en sortir. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, Rémi Sulmont, 15 jours après cette arrestation, c'est que ses avocats lui avaient fortement déconseillé de participer à cette émission qui a causé sa chute, finalement.
Oui, effectivement, parmi ces 8 avocats, on a vu 8 avocats dans le tribunal de la Nouvelle-Orléans lorsqu'il était inculpé pour le cannabis et pour le reste, ces 8 avocats qui assurent sa défense aujourd'hui, et bien l'un de ses avocats lui avait formellement déconseillé, celui qui justement avait réussi l'exploit de le faire acquitter dans l'affaire du meurtre de Suzanne Berman, la confidente. Cet avocat lui avait dit non, vraiment c'est pas une bonne idée, il faut réfléchir à deux fois avant d'accepter d'être interviewé. Bon, la vanité de Robert Durst a semble-t-il été plus forte Hein. Ouais. Pourtant, les documentaristes avaient annoncé qu'ils se concentraient vraiment sur la disparition de sa femme. Ils ont visiblement mieux travaillé, Timothée l'a souligné, que les enquêteurs pendant 30 ans, car eux ont trouvé ce qu'on appelle ici le smoking gun dont vous avez parlé, la preuve qui fait tout basculer.
Ah, c'est comme ça qu'on appelle ça.
Exactement.
Le pistolet fumant.
Le pistolet qui fume encore. Voilà. C'est très, très imagé et ça parle très fort. L'interview donc se déroule, l'interview dont on parle depuis le début de cette émission, se déroule dans un hôtel de New York, hein, ici, en 2012. Dust vient d'être questionné pendant plusieurs heures lorsque les documentaristes enquêteurs lui montrent cette fameuse lettre et la compare avec l'autre enveloppe. Ouais. Et à la caméra, Dust nie, l'interview se termine, les projecteurs s'éteignent sur les canapés, Dust se rend aux toilettes, il oublie les micros qui sont accrochés, vous savez, au revers de sa veste. C'est facile d'oublier ses micros. C'est l'extrait que vous avez fait entendre au tout début de l'émission. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» dit-il en chuchotant. « Je les ai tous tués, bien sûr, » murmure le vieil homme. Oui. Cette bombe télévisuelle devient alors une bombe judiciaire.
Mais juste un mot avant de poursuivre notre conversation, Rémi Sulmont, parce qu'on a diffusé tout à l'heure ce document, et il faut bien dire que déjà, quand on parle pas anglais, on n'y comprend rien, mais j'ai peur que...
Même quand on parle anglais, il faut écouter plusieurs fois, hein, je vous confirme.
Mais vous confirmez la tenue des propos, c'est vraiment ce qu'il a dit, quoi.
Il a vraiment dit ça. C'est vraiment ce qu'il a dit. Ouais. C'est vraiment ce qu'il dit sur la bande, c'est assez clair, oui.
D'accord. Alors, évidemment, bon... on peut pas trouver d'aveu plus spectaculaire que ceux faits au cours d'une émission de télévision. Alors, le plus extraordinaire, on y revient maintenant, c'est quand même que les auteurs de cette série jurent qu'ils n'ont fait attention à ces aveux murmurés que en faisant le montage de leur documentaire 2 ans plus tard, c'est-à-dire en fait l'an dernier, quoi. Vous en doutez ou pas
Un petit peu.
Nous, franchement, je vais vous dire, on en doute un peu, hein, mais peut-être qu'on est trop mauvais.
Bon, alors, en même temps, la fabrication et le temps de fabrication en télévision, c'est possible. En tout cas, bon, c'est vrai qu'on peut en douter parce que ces documentaristes qui ont un vrai talent d'enquêteur, on l'a souligné, sont aussi très doués pour la mise en scène. Hein, ils ont enregistré l'interview donc en 2012. Et on peut imaginer qu'ils aient voulu ne pas déflorer ces aveux qui, littéralement, valent de l'or, hein, que ça se traduit en dollars en audience derrière. Ben, certains leur reprochent d'ailleurs d'avoir manipulé le public en réservant les aveux après des heures de documentaire, ce qui a été très efficace hein, puisque la série a rencontré un énorme succès d'audience ici aux États-Unis. Bon, faut mentionner, vous l'avez dit, que les auteurs du film ont en revanche prévenu la police pour la lettre et pour la faute d'orthographe. La question qui se pose vraiment aujourd'hui, c'est de savoir si ces aveux susurrés vont pouvoir être utilisés devant le tribunal. C'est évidemment la grande question. Alors, vous pouvez compter sur l'équipe d'avocats du millionnaire pour dire que évidemment non, ce qui a été dit en privé seul dans les toilettes pourrait être refusé par un juge comme pièce à conviction, ce qui fait de la très bonne télévision ne fait pas forcément une preuve irréfutable devant un tribunal.
Enfin, le procès, si procès il y a, fera de la très bonne télévision aussi, on peut le dire.
Parce que ça sera filmé.
Parce que ça sera filmé. Toute dernière question qu'on n'avait pas prévue, mais j'y pense là en vous écoutant. Vous pouvez juste nous confirmer une chose, Rémi Sulmont. Aux États-Unis, il n'y a pas de prescription. En France, c'est 10 ans après un meurtre. Là, la disparition de sa femme, c'est 33 ans. La mort de Suzanne.
Quand le corps n'a pas été retrouvé, c'est comme en France. Hein. Il n'y a pas de fermeture de dossier.
Ah, il n'y a pas de fermeture de dossier. D'accord. Donc, en fait, la question reste ouverte et il va avoir à répondre devant la justice américaine. Je vous remercie beaucoup, Rémi Sulmont, de nous avoir donné tous ces détails sur cette affaire incroyable.
Avec plaisir.
Au revoir. Il nous reste deux petites minutes ou trois minutes, Timothée Boutry. D'abord, je reviens sur ce personnage. Il est vrai, quand on dit oui, milliardaire, fantasque et tout, son histoire de travestissement, il ne s'est pas travesti qu'une fois pour aller à Galveston. Et en plus, vous publiez ce matin dans votre article, pour illustrer l'article, un dessin, qui est un dessin judiciaire apparemment, qui le montre le crâne totalement rasé et sans sourcils. Il s'est rasé le crâne et les sourcils. C'était pour faire plus féminin, femme sous ses sous
ça,
sa perruque et tout ça.
Oui, il avait grimé pendant plusieurs années a priori. Hein, c'est ce qui a été dit et que voilà quand il a été arrêté, enfin quand il a commis le meurtre de Maurice Black, son voisin. Et sans doute c'était pas la première fois et on l'a dit, il avait l'habitude de prendre des alias, d'autres identités et de se déguiser. Alors c'est vrai que Rémi l'a très bien dit, il y a sa vanité et c'est vrai que quand il y a un film, une fiction qui avait été réalisée, ça lui avait pas plu, il avait contacté lui-même en disant moi
c'est lui qui avait contacté HBO pour dire mais alors pourquoi vous m'interviewez pas,
je vais vous donner ma version. Il est extrêmement sûr de lui, provocateur, en même temps assez déséquilibré. Effectivement, son frère a raconté l'histoire des chiens qui avaient été tués. On sait qu'il a été retrouvé arrêté deux fois armé sur la propriété de son frère.
Alors
qu'il
n'avait
pas le droit de s'en...
C'est très important ce que vous dites là, parce que
son frère a donné une interview au New York Times où il raconte l'histoire des chiens.
J'étais dit, peut-être le prochain sur la liste. Alors,
okay, il a félicité les enquêteurs, enfin il a félicité l'arrestation, il s'est félicité de l'arrestation de son frère en disant que pour la justice c'était bien. Il a dit
mais pour lui aussi.
Il a quand même été arrêté deux fois sur ma propriété, je me demande s'il n'allait pas s'en prendre à moi. Voilà, donc c'est effectivement, il a une personnalité qui ferait plaisir à bon nombre de nos experts psychiatres que nous connaissons bien et que vous entendez sur cette antenne.
C'est exactement ce que je m'apprêtais à dire. Il y a du boulot pour les psychiatres. Et il y a des pistes. Hein. C'est dans votre article que j'ai vu ça, je crois. En fait, on s'est déjà posé la question de savoir à quand remonteraient ces problèmes psychologiques. Et certains témoins proches de la famille disent au moment de la mort de sa mère. Quand il avait 7 ans. Quelquefois, l'enfance recèle des événements. Bon, heureusement que tous les gens qui perdent leur mère à 7 ans ne deviennent pas ensuite des assassins. Je suis d'accord avec vous. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, vous suivez le dossier, évidemment.
On va voir la suite. Ouais. Bon, c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps, les procédures. Et puis, c'est vrai que Rémi l'a dit, le débat judiciaire va être juridiquement de haute volée, mais en tout cas, âpre.
Bon, mais il va se passer des mois. Hein. Il va pas être le procès. Il faudrait déjà qu'il soit extradé, puisque Rémi Sulmont le précisait, donc pour l'instant, la police a des charges contre lui à cause de la marijuana et de l'arme qu'on a trouvée. Voilà donc une histoire, un feuilleton qui n'est pas terminé. Merci infiniment, Timothée Boutry. Je vous renvoie pour tous les détails au Parisien de ce matin, donc puisque cette émission vous était proposée en partenariat avec Le Parisien, aujourd'hui en France.